Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Merci de nous écouter partout où vous êtes en RDC et même en dehors de nos frontières. Nous allons parler mine aujourd'hui. La dotation des 0,3% contribue-t-elle réellement au développement des communautés locales? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec Lambert Minda, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise du Lualaba. On aura également en ligne Ernest Parero, président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. Des questions et préoccupations sur la dotation 0,3%. Appelez au 099 706 9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Comment lutter contre l'épidémie de rougeole, la propagation de l'épidémie de rougeole en RDC? On en parle à partir de 11h05 avec Dr Cédric Massi, responsable médical de Médecins Sans Frontières à Kinshasa. Voilà ainsi présenté le menu de l'émission du jour. Pour participer, laissez un commentaire sur la page Facebook d'Okapi Service. Appelez au 099 706 9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Debs Vita à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Eh oui, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Nous allons aujourd'hui parler de la dotation 0,3% dans les secteurs miniers. Voilà, vous savez, la Cour des comptes a publié le 18 juillet dernier un rapport qui signale que 37 entreprises minières ne respectent pas les clauses sociales du code minier en vigueur en République démocratique du Congo. Vous savez, la dotation des 0,3% est destinée, disons 0,3% du chiffre d'affaires est destiné au développement des communautés locales, mais en réalité ce n'est pas ce qui est fait sur le terrain. Les entreprises ont tendance à minorer les chiffres d'affaires déclarés auprès des services spécialisés, notamment à la Direction générale des impôts, à la DGI. Alors, ce qui réduit aussi le pourcentage qui est affecté au développement des communautés locales. Alors, on se pose aujourd'hui la question de savoir, est-ce que depuis l'institution de cette disposition dans le code minier congolais, est-ce que réellement cette dotation de 0,3% a contribué au développement des communautés locales, là où les entreprises exploitent? Eh bien, nous allons échanger autour de cela avec nos invités. Nous avons déjà en ligne Lambert Minda, qui est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du Lualaba. Lambert Minda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Mes salutations à toute la population de notre province. particulièrement et en général de la RDC et à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont scotchés en ce moment pour nous suivre.
Bien, aidez-nous à mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que, on parle souvent de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires. De quoi s'agit-il effectivement, concrètement?
Merci, monsieur le journaliste. Selon l'article 285 bis du code minier parlant de la dotation pour contribution au projet de développement communautaire, au fait, on demande aux titulaires de droits miniers d'exploitation ou d'autorisation d'exploitation des carrières permanentes de constituer en franchise l'impôt sur les bénéfices et profits. Alors, cette dotation pour contribution au projet de développement communautaire, dont le montant minimal est égal au 0,3% du chiffre d'affaires de l'exercice au cours duquel elle est constituée. Mais dans la plupart des cas, comme vous l'aviez dit en prélude, il y a minoration de ce chiffre d'affaires en complicité avec les agents qui sont censés contrôler, parce que normalement, il y a des grandes entreprises comme ici dans la province du Lualaba qui ont un chiffre d'affaires vraiment élevé, mais suite à certaines complicités, ils ont dû minorer pour qu'ils ne puissent pas vraiment faire ressortir le 0,3%, mais ils les donnent d'une manière comme ça a déjà commencé. Il y avait eu un paiement rétroactif. Alors, laquelle dotation, en fait, doit être entièrement mise à disposition des communautés locales avant l'expiration même de l'exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée. C'est un peu cela, oui.
Voilà, donc bon nombre d'entreprises ont l'habitude de minorer cette dotation, mais alors cette dotation, est-ce qu'elle est mensuelle ou elle est, disons, annuelle? Parce que je pense que les déclarations faites sont des déclarations annuelles.
Affirmatif, la déclaration, elle est annuelle, c'est pas mensuelle. C'est le 0,3% du chiffre d'affaires. On prélève ça d'une manière... c'est une annuité, quoi. Donc, c'est chaque année. Comme c'était institué depuis 2018 et qu'il y avait eu d'abord des accords entre les deux ministères, c'est-à-dire le ministère national des mines et celui des affaires sociales, il fallait qu'ils puissent s'accorder. C'est alors que, je crois, en 2021, qu'il y a eu... cet arrêté interministériel, là où on a mis maintenant en application avec obligation de paiement rétroactif. C'est alors que les miniers, parce que l'argent, ils ne savaient pas où loger cet argent-là depuis 2018. C'est alors quand on a mis en place les différentes dotations, les miniers étaient obligés de payer d'une manière rétroactive. Alors là, c'est payé d'une manière annuelle et les gestionnaires des dotations ont du cash et ils sont en train d'exécuter les projets d'intérêt communautaire, mais l'exécution pose problème. Hein. L'exécution pose problème du fait que il y a d'autres projets qui sont exécutés dans la durabilité, mais il y a dans la plupart des cas des projets qu'on exécute vraiment d'une manière inviable. Alors, tout cela, ça ne profiterait pas vraiment aux communautés impactées. Parce que le but, c'est que les communautés impactées bénéficient des projets à impact durable ou des projets aussi bancables. C'est un peu cela.
Oui, il s'agit de quel type de projet communautaire, monsieur Lambert?
Oui, au fait, d'abord, au départ, il faut que l'organisme puisse faire le tour hein, dans les communautés impactées pour identifier les projets prioritaires. C'est les communautés eux-mêmes qui vont dire que non, il faut nous construire, par exemple, un centre de santé, il faut nous construire les écoles professionnelles, il faut construire des poulaillers ou des porcheries, ainsi de suite. Ou soit nous avons besoin de l'acquisition de autant d'hectares pour faire l'agriculture. Mmh. Au fait, d'abord, de prime abord, on identifie les projets prioritaires des communautés. Après identification, alors là, il y a une unité qui est chargée d'exécution des projets qui se retrouve au sein de cet organisme, là où on va recruter des gens experts du domaine qui vont faire les passations, donc c'est-à-dire l'appel d'offres par rapport aux différents les entrepreneurs pour qu'on exécute maintenant les projets. C'est un peu cela. Je prends le cas, on veut construire une école d'apprentissage des métiers, ou on appelle ça école professionnelle.
Oui.
Alors là, on fait l'appel d'offres, il y a des soumissionnaires qui viennent, et puis après, c'est lui qui aura le plus-value, donc il a le marché, et puis après, il commence l'exécution des travaux. Alors, il te fait que dans l'exécution, c'est là où il y a problème, parce que il y a un certain dictat d'abord, parce que l'organisme qui gère la dotation peut choisir un certain entrepreneur, mais il y a une main politique qui impose que non, il faut prendre celui-ci. Voyez-vous.
Voilà, il y a toujours des.
Dans la plupart des cas.
Oui, allez-y.
Dans la plupart des cas, nos compatriotes vraiment ne respectent pas. C'est ça le problème avec nos compatriotes. Ils se disent que non, on donne les marchés aux étrangers, mais quand on leur donne le marché, le DG, il prend le vol, il va aux États-Unis. Il laisse maintenant aux mains de ceux-là qui sont sur le chantier des maigres moyens, et puis ils font n'importe quoi. Mais contrairement aux étrangers qui sont ici sur place, des Indiens, parce qu'ils sont vraiment dans la construction des bâtiments, eux au moins ils sont sérieux. C'est-à-dire quand on leur donne le marché, vous voyez comment ils se déploient, et puis ils commencent à construire. Ils créent même l'accessibilité par rapport aux chantiers qu'on va leur octroyer. Mais tandis que nos compatriotes, vraiment, ils font n'importe quoi, parce que le DG, lui, c'est une occasion de s'enrichir. Il va aux États-Unis, il va en Chine, il va partout, il laisse sur les chantiers des maigres moyens, c'est alors qu'on exécute n'importe quoi, là. C'est un peu cela, M. Diodi. Mais quand même, nous sommes là sur terrain, on a eu à faire de telles remarques qu'on a envoyé même aux autorités compétentes que non, il faut sanctionner. Il faut sanctionner ces gens-là qui n'exécutent pas d'une manière escomptée les travaux durables pour les communautés. Parce que les communautés sont impactées. Les miniers sont en train de prendre des millions et des millions de tonnes de nos minerais. Mais qu'est-ce qu'on va rester avec ça en retour?
Bien.
C'est un peu cela. Donc,
d'accord.
Nous sommes là.
Restez en ligne.
Contrôle citoyen.
Oui. Restez en ligne, Lambert Mendard. On va donner la parole à M. Ernest Imparero, qui est président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, LICOCO en sigle. Ernest Imparero, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Taki.
C'est plutôt Monsieur Jody Kachama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel bilan vous pouvez faire de cette dotation des 0,3% sur les chiffres d'affaires des entreprises minières au profit des communautés locales?
Effectivement, comme il n'y a pas encore une évaluation globale de la réalisation de projets provenant de la DOT, nous ne pouvons pas actuellement se prononcer, mais l'impact est encore mitigé. Pourquoi l'impact est mitigé? Nous, au niveau de la LICOCO, nous pensons que c'est la gouvernance qui est la cause de cette situation. Si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, parmi les irrégularités que la Cour a relevées, il y a la mauvaise répartition des revenus, il y a la non-tenue d'une comptabilité conforme au droit WADA, il y a défaut de mise en place d'unités d'exécution de projet, il n'y a pas de cellule de passation des marchés. Il y a le non-respect du principe de service fait préalablement à tout paiement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque les organismes spécialisés reçoivent l'argent, on donne à l'entrepreneur 30% ou 40%. Lorsqu'il exécute les marchés, on voit que les marchés avancent, on lui avance encore 30%. Et après, on va solder lorsque l'entrepreneur va terminer. Mais est-ce que cette répartition est faite de cette façon-là? Je ne le pense pas. Le deuxième problème que nous constatons effectivement, c'est le manque de contrôle des ministères des mines et des affaires sociales. Comme vous le savez, 90% de la dot vont aux organismes spécialisés et 10% restent pour la supervision que le ministère des mines et le ministère des affaires sociales gèrent. Et les 10%, c'est 2 millions de dollars.
Et Ernest Imparero, quelles sont ces structures spécialisées censées gérer la dot?
Ce sont les organismes qui sont mis en place dans les entreprises qui sont sur terrain. Dans chaque communauté impactée, il y a un organisme spécialisé. Donc, c'est comme ça qu'actuellement, il y a 37 organismes dans les Haut-Katanga et les Lualaba. Mais ces organismes, lorsqu'on les a mis en place, on a oublié aussi de mettre en place les outils de gouvernance de ces organismes. Et c'est ce que la Cour des comptes a relevé. Et malgré cet oubli, le contrôle en amont maintenant du ministère des Mines et du ministère des Affaires sociales n'existe pas. Donc vous verrez que le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales, ils gèrent de l'argent, ils ont des moyens. C'est pour autre chose que aller voir si les dots fonctionnent réellement. Et si ces outils de gouvernance existent. Et conséquence, c'est ce que la Cour a relevé aujourd'hui et les impacts sont encore mitigés.
Bien, donc la Cour a relevé des irrégularités graves dans la gestion de la dotation de 0,3%. Un instant, Monsieur Mparero, le temps d'accueillir les auditeurs. Justin Koulou est à Kasumbalesa et Blaise Saïdi à Kisangani. Alors, rappelez-nous pour nous dire si dans votre communauté, cette dotation de 0,3% a réellement favorisé le développement, la construction des écoles, des centres de santé et autres. Justin Koulou, vous êtes à Kasumbalesa, bonjour. Allô Justin, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la dotation des 0,3%?
Oui, oui, effectivement, là où je suis à Fungurume, à boire et à manger. Nous savons ces 0,3%. Ma question est la question que la population se pose et cette question de 0,3% est gérée où? Nous avons les oui dire qu'il y a un bureau à Kinshasa qui gère cet argent et quand il y a un projet sélectionné, c'est maintenant qu'on va restituer maintenant pour la construction des écoles et des routes et autres choses. Deuxièmement, les 0,3%, pour, à mon humble avis, la gestion n'est pas bonne. Toujours entendu. Les projets qu'on exécute cette année ici, c'est le projet qui a été soumissionné et viré là, il y a 5 ans en arrière. Donc, il y a presque 3 ans, le projet en souffrance. On ne sait pas, on va attaquer par quel projet. On continue à faire des suggestions, mais l'application en retard. Il y a même ces projets-là, après 5 ans, jusqu'à maintenant, les projets ne sont pas atteints. La société s'est appelée les gérants, qu'on appelle les agents du fonds social, si je ne m'abuse pas. Et ces gens-là sont des amis avec la société, ils ne sont pas les amis de la population, de la partie prenante. Donc nous arrivons, c'est très difficile de faire les suivis, savoir.
Donc Justin, on va donner... cela veut dire qu'à Fungurume, mais il n'y a aucun projet qui a été exécuté grâce à la dotation des 0,3%.
Non, il y a des projets, il y a des écoles... Il y a des routes, il y a des marchés construits, mais arriérés, des projets qui datent même de 5 ans. Il y a même des cahiers de charges en France actuellement, des offres qu'on avait lancées, mais c'est parti en fin comme ça. On ne sait pas à qui est-ce qu'on va demander pourquoi ce projet n'est pas exécuté, or c'est budgétisé.
Merci beaucoup. On va donner la parole à Blaise Saïd de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, cher Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour aux auditeurs.
Quelle est votre question? Quelle est votre question rapidement, Blaise?
Voilà. Mes questions sont les suivantes. La première, quelles sont les principales failles dans l'application du code minier au niveau local? Puisqu'on parle toujours de ces 3%, et pardon, 0,3%, mais il y a toujours problème. Vous voyez que non, la Cour des comptes a publié les éléments qui montrent vraiment notre transparence à la gestion. Voilà, la deuxième question, quelles sont les mécanismes de contrôle les citoyens peuvent être mis en place pour surveiller la gestion des fonds miniers? C'est ça la deuxième question. Et la troisième question, cher Jody, pour vous citer à ce niveau-là, les comités locaux sont-ils suffisamment informés de leurs droits dans les secteurs miniers? Voici les trois petites questions, cher Jody. Merci bien.
Bien, merci Blaise Haïdi de Kisangani. On va donner la parole à Lambert Menda. Vous avez suivi la première question de Justin Koulou. Il dit qu'à Fungurume, il ne voit rien. Il se demande où se trouve le bureau qui gère cette dotation des 0,3%. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Justin Koulou, Lambert Menda?
Oui, monsieur Justin Koulou, je crois que à Fungurume, il y a la dotation, par exemple, TFM. La dotation TFM est en train d'exécuter les travaux d'intérêt communautaire. Et je crois que les collègues sont là-bas et il y a des travaux à impact visible. Et notamment aussi ici à Colouisi, ce sont des travaux qui sont effectués, mais il y a d'autres travaux, comme je disais, qui sont inviables, donc c'est-à-dire qui ne sont pas exécutés dans la durabilité, ce que nous décrions. Il a été d'épingler quelque chose en termes de cahier de charges. Dotation 0,3%, c'est différent avec le cahier des charges. Le cahier de charges, c'est à la charge des entreprises. C'est-à-dire, c'est l'entreprise qui signe avec les communautés un cahier des charges au bout duquel on aura évalué durant les 5 ans. Mais tandis que pour la dotation, c'est-à-dire, il y a un organisme qui est spécialisé, qui gère cette dotation, qui a son sein 12 membres qui vient de différents services et autres, ainsi que même des communautés de base. Mais tandis que parlant maintenant de mécanismes de contrôle, bon, là où il y a un problème, parce qu'il y a une équipe de supervision qui est de Kinshasa, c'est l'équipe qui contrôle au moins à distance, mais tandis que au niveau local, les mécanismes à part seulement nous, société civile, on peut faire un contrôle citoyen comme on l'avait fait pour une certaine dotation. Là où nous descendions dans des communautés et voir les projets exécutés, là où on avait salué quand même certains projets exécutés d'une manière durable et d'autres d'une manière inviable, là où nous demandions même des sanctions. Parce que il y a un problème chez nous, un problème de suivi, il y a aussi un problème de respect par rapport à l'octroi même des marchés. Parce que vous pouvez vous imaginer qu'un marché est octroyé à une entreprise qui n'a pas d'expérience. Et du coup, on vous fait du surplace. C'est-à-dire, on vous fait des travaux inviables que les communautés elles-mêmes n'apprécient pas. Mais nous, quand même, on a eu le temps de parler avec d'autres communautés qui sont impactées par rapport à ce que la dotation 0,3% peut leur apporter dans leur communauté par rapport aux projets qui ont été soumis. C'est un peu cela. Mais maintenant aussi, la faiblesse, c'est que c'est d'abord une première. C'est ça la faiblesse. Une première est que on a remis d'une manière pas tellement structurée, mais une manière un peu éparse la gestion de cette dotation à des gens comme ça, qui ont vu que non, c'est une façon de s'enrichir. Du coup, ils ont créé des entreprises comme ça, fictives, des entreprises éventuelles comme ça, juste pour gagner les marchés. Or, il y a des gens qu'on connaît qu'ils font des travaux depuis très longtemps, qui sont experts en bâtiment. On leur donne pas les marchés, mais on donne comme ça à des petites entreprises qui naissent comme ça, qui n'ont aucun capital, Et puis après, ils exécutent des travaux d'une manière inviable. C'est un peu
ça. Donc, c'est ça, on donne les marchés, c'est de gré à gré.
Bon, les marchés, bon, vous savez, au niveau de la passation des marchés, il y a un problème. Parce que quand il y a appel d'offres, là, il y a des soumissionnaires qui viennent, mais il y a un dictat politique, je disais tantôt. C'est-à-dire, on vous dit que non, ne prenez pas celui-là, prenez l'autre ici. Voyez. Quand on voit, par exemple, le gouvernement provincial, les travaux exécutés, c'est par les étrangers qui exécutent les travaux des bâtiments. Parce que le gouvernement provincial a vite compris que les Indiens, ils sont vraiment experts en bâtiment. Mais pour les Congolais, la dotation 0,3%, on exige qu'on prenne les Congolais. Alors les Congolais qui n'ont pas assez d'expérience, ils vous construisent des histoires qui ne sont pas durables. C'est là où nous avons fustigé. Nous disions que, non, pourquoi est-ce que vous exigez à l'organisme qui gère la dotation de prendre les nationaux qui ne construisent pas dans la durabilité? Parce que comme je disais tantôt, le DG, quand il a déjà le 30% versé dans le compte, lui il voyage. Il laisse les maigres montants pour l'exécution des travaux.
Lambert Mendam, il y a aussi des Congolais qui font du bon travail, qui dans la construction. Peut-être, est-ce qu'ils étaient au courant des appels d'offres, etc. C'est ça la question.
Oui, il y a ceux-là qui ont exécuté, je crois. Dans les images que je vais vous envoyer, il y a d'autres Congolais qu'on avait loué leur façon de faire les choses, leur savoir-faire. Il y en a. Mais dans la plupart des cas, des gens qui ont ravi le marché, ils n'ont pas fait le bon travail. Mmh. Mais il y a d'autres qui se sont démarqués par leur façon de bien faire. Ils sont là. Mais le problème, c'est le dictat politique, parce que il s'agit de la gestion des projets à intérêt communautaire. On n'a pas besoin qu'un politicien vienne faire un quelconque dictat. C'est là où nous déclinons. Oui, parce que l'organisme doit être à mesure quand on fait l'appel d'offres, il y a passation de marché. Si l'organisme estime que les expats, n'est-ce pas, parce que c'est eux que même le gouvernement provincial utilise pour faire les travaux des bâtiments, ceux-là, ils respectent le tout. Ils les font d'une manière viable. Alors, il faut laisser la main libre à ceux-là qui ont gagné le marché, oui. Au lieu qu'on dise non, prends l'autre. Mais l'autre là, à qui on a remis l'argent, il est parti pour faire des travaux inviables. Je sais de quoi je parle, monsieur le journaliste. Mmh. Oui.
Donc, vous voulez dire que ce sont des entreprises créées à tout bout de pièce par les mêmes gestionnaires de la dot pour les opérations retour?
Oui, il y a certains gestionnaires qui ont créé des petites entreprises là qui ne font absolument rien, mais il y a d'autres entreprises que lui a reçu les dictats. C'est-à-dire, on lui dit que non, il faut prendre tel. Celui-là, non. Vous voyez, un dictat, un certain dictat qui vient d'en haut pour dire que non, prenez celui-là. Mais celui-là qui a pris là. Mais il faut voir les travaux qu'il a exécutés. C'est quels travaux? C'est ça le problème. Moi, j'étais sur le terrain. J'ai essayé de filmer. C'était des travaux exécutés d'une manière inviable.
Ou par exemple, est-ce que vous avez des exemples précis? Là, c'était où, par exemple?
Par exemple, de la dotation Metalcol, là où il fallait construire une école avec internat dans le village Chamundenda. On avait attribué à un certain, je crois, Congolais comme ça, on appelait Wilvan, si je ne me trompe pas, permettez que je cite le nom de cette entreprise, mais ils ont fait n'importe quoi, vous voyez. Donc, c'est-à-dire un grand marché, là où il fallait construire un bâtiment R+1, pour école avec internat, mais il fallait voir les genres d'armature qu'ils utilisaient pour construire le bâtiment là en hauteur, et ça a été décrié, et le marché est arrêté, parce que les travaux sont même sont aux arrêts. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette dénonciation, j'ai envoyé des images aux autorités compétentes, le gars là apparemment, selon l'organisme, il faut rompre le contrat. Ouais. En même temps, on freine, parce que en ce net moment, l'école pouvait déjà être exécutée si on avait donné, par exemple, à d'autres là, à qui on a donné des petits marchés et qui les ont fait d'une manière rapide. et dans le laps de temps, quoi. Oui, oui. Même à celui-là qu'on a donné un très grand marché qui était au-delà de 1 million de dollars, comme montant chiffré, mais ce qu'il a fait là-bas, c'est grave, monsieur le journaliste. Moi, j'étais sur terrain, comme je vous dis, c'est dans le village de Chamundenda, et c'est la dotation métal-col. C'est un peu cela. Et les travaux, actuellement, on parle avec vous, les travaux sont aux arrêts, parce que c'était des gens, je ne sais pas, une entreprise mobiste, parce que les armatures qu'ils utilisaient pour monter en hauteur, il faut voir les chars d'armature qu'il faut utiliser, par exemple. Mais eux, ils ont utilisé des armatures avec faible diamètre, mais on a vite compris que ce sont des gens, des novices, et seulement qu'il y avait un certain dictat politique. Et après, comme j'ai décrié cela, j'ai pu dénoncer, l'organisme là nous a promis qu'ils vont rompre le contrat, mais nous attendons encore vraiment. Mais à part les autres à qui on a remis les marchés, ils ont construit dans la durabilité quelque chose que j'ai salué. J'en ai même fait des images que j'ai envoyées aussi aux autorités compétentes. C'est un peu cela. Donc, c'est-à-dire, nous devons être d'abord au départ des patriotes. Parce qu'il n'y a qu'un patriote qui puisse dire que non, là, ce que vous avez construit là-bas, c'est grave. C'est du surplace. Mais si quelqu'un ne voit que l'argent, il ne voit que le gain, au lieu de voir la durabilité, parce qu'on s'est inscrit que, voyez, par exemple, nous avons un grand exemple, c'est la Jicamine. Comment est-ce que les bâtiments de la Jicamine, ils sont construits depuis la période de l'indépendance? Ces bâtiments sont dans leur viabilité. On a construit pour des générations futures. Nous voulions aussi que, par exemple, l'organisme qui gère la dotation 0,3% pour le bénéfice au projet communautaire, qu'ils construisent ou qu'ils recrutent des entrepreneurs ou
sérieux, qui vont faire un bon travail, bien sûr. D'accord, on va accueillir.
Faire un bon travail parce que c'est pour les générations futures.
D'accord, Lambert Menda. D'accord, on vous retrouve tout à l'heure, le temps d'accueillir d'autres auditeurs. Gaston Gandou de Kinshasa, Chrysostome Alebakwa nous appelle depuis Arou en Ituri. Gaston Gandou de Kinshasa, bonjour et quelle est votre question? Bonjour Gaston.
Bonjour, je parle avec l'invité.
Quelle est votre question?
Je parle avec ma question.
Oui, oui, on vous écoute, hein. Allez-y.
Bon. Si je comprends bien, les entreprises qui sont censées verser 0,3% versent quand même, cette somme-là, c'est au niveau de la gestion de cette somme-là qui pose problème. Si je comprends bien, c'est cela. Moi, je veux aussi savoir. Ok. C'est pas toutes les entreprises qui œuvrent dans ce domaine ici. Nous savons qu'il y a des entreprises qui exploitent nos minéraux, qui vendent à l'extérieur. C'est quand ces entreprises-là, à la fin de l'année, lorsqu'ils présentent leur chiffre d'affaires, bon, la manière dont ils ont roulé, ils ont, l'air sur la piste, ils pensaient mettre les pétrole, à part d'autres indicateurs fiscales, mettre les côtés, ils disaient des histoires fiscales obligatoirement pour.
Oui, Gaston, la communication n'est pas très très intéressante. Vous voulez savoir si le problème se trouve au niveau de la gestion? Est-ce que c'est le problème c'est au niveau de la gestion de la dot ou c'est les entreprises ne versent pas cet argent annuellement comme il faut? Merci. On va donner la parole à Chrysostome Lebakwa depuis Yarou. Bonjour. Quelle est votre question?
Oui, bonjour, monsieur Jordi. Permettez-moi de citer le nom d'une société qui balicorde. Et je tiens à préciser que je ne travaille pas là-bas. J'ai juste deux questions à notre invité. Qui balicorde installé à Durban se distingue très positivement dans le secteur minier en RDC. Contrairement à d'autres entreprises souvent critiquées, qui balicorde respecte les obligations du code minier et va d'ailleurs plus loin en construisant des écoles, des centres de santé, des routes. Donc, monsieur Jordi, Kibali incarne un modèle de partenariat responsable entre entreprises minières et la communauté. Alors, j'aimerais poser à notre invité ces deux petites questions. Pourquoi l'État congolais ne généralise-t-il pas le modèle Kibali Gold à toutes les entreprises minières opérant sur son territoire? Et deuxièmement, comment les communautés locales peuvent-elles s'organiser pour exiger davantage de transparence et d'engagement social des autres sociétés minières? Merci, M. Jordi.
Bien, merci. Monsieur Ernest Parero, vous avez la parole.
Mon intervention, malheureusement. Je disais, il y a un problème structurel d'abord. Un, on a installé les docs, les personnes, les responsables, pour mettre en place les outils de gouvernance. Deux, la supervision qui est faite par le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales n'est pas efficace. Et trois, les entreprises profitent de ces laxismes pour effectivement minorer leur déclaration de chiffre d'affaires. Et pourquoi les entreprises font cela? C'est parce qu'il n'y a pas une collaboration entre les deux ministères, le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales, avec le ministère des Finances. Ce qui fait que la DGI ne communique pas au ministère des Mines le chiffre d'affaires des entreprises minières. Et cela profite effectivement aux entreprises minières pour déclarer ce qu'ils peuvent déclarer. Alors, on rentre sur la question de l'auditeur de Ouattara, si je ne me trompe pas. Effectivement, Kibali, c'est une société modèle. Et comme vous le savez, en RDC, les autorités n'aiment pas donner les bons exemples. Ils sont là pour donner les mauvais exemples seulement. On n'encourage pas les gens avec de bonnes pratiques. Et effectivement, on devrait prendre les bons exemples de Kibali pour effectivement pousser les autres entreprises qui sont à Kolwezi et au Katanga à suivre ces mêmes modèles-là. Mais le comble est qu'on ne peut pas. Alors, comme il y a un souci de gouvernance, qu'est-ce qu'il faut faire? L'auditeur venait de dire quel est le rôle des communautés locales. Les communautés locales peuvent effectivement, s'ils sont au courant, ils peuvent dénoncer tous ces actes. Lambert qui est à Kolwezi, il peut demander aux communautés, voici les projets qui devraient être construits par la DOT. Si on ne construit pas, si on ne réalise pas ces projets, venez nous dire. À ce moment-là, les communautés pourraient s'approprier de tous ces projets-là. N'oublie pas que le code minier actuel favorise vraiment le développement à la base. Pourquoi? Parce que nous avons la redevance minière qui est chargée aussi de financer des projets provinciaux à la base. Et de projets provinciaux et nationaux et locaux encore. Nous avons les cahiers des charges qui est géré par la société, qui est aussi chargé, qui aussi, ce sont des fonds qui doivent financer des projets locaux et communautaires. Et nous avons les 0,3. Donc vous voyez que le code minier actuel de la RDC, vraiment si il est bien appliqué et s'il y a une bonne gouvernance, ça peut impulser le développement à la base. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut seulement une bonne gouvernance, il faut un contrôle indépendant et des sanctions. S'il y a des sanctions à tous les niveaux, vous verrez que les gens vont changer. Mais s'il n'y a pas de sanctions, vous verrez ce que Lambert est en train de déplorer, ce que les auditeurs sont en train de déplorer, vont continuer.
Bien. Et
qu'est-ce que nous, citoyens, qu'est-ce que les communautés peuvent faire? Effectivement, c'est de pousser aux politiciens. Il ne faut pas avoir peur des députés, il ne faut pas avoir peur des ministres, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire, écoutez, vous ne faites pas votre travail, comment vous devez recruter une société qui n'a pas d'expérience, comment on doit donner des marchés à des sociétés fictives, comment? Donc, toutes ces sociétés-là, nous devons le dire, nous devons le dire à nos politiciens, à nos autorités, nous ne devons pas avoir peur d'eux. Il faut les approcher, leur dire, écoutez, voici le problème, voici ce qui a été fait, parce que nous avons de l'argent, ce sont des millions et des millions de dollars qui peuvent financer les routes à la base, les routes des ressources agricoles, qui peuvent financer l'agriculture, qui peuvent financer la santé, qui peuvent financer l'éducation à la base et la formation des jeunes. Mais malheureusement, avec la mauvaise gouvernance, cela n'est pas fait.
Bien, on va accueillir deux auditeurs. Nous avons Ogi Bosenga de Colosie et Franck de Vienne. Nous parlons de la dotation de 0,3% dans les domaines des mines pour voilà cet argent, cette contribution obligatoire des entreprises minières qui exploitent dans notre pays afin de d'aider voilà au développement des communautés en finançant des projets d'intérêt communautaire. On va accueillir Ogi Bosenga de Colosie. Bonjour Ogi.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Papi.
Voilà, un coucou à tous les auditeurs de Dilala Manika qui nous écoutent en ce moment à Colosie. Et à Lissano. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Merci beaucoup pour la parole, M. Jody. Alors, c'est vraiment déplorable de constater que dans ce pays, nous n'avons pas vraiment des hommes d'État, des gens capables de faire les choses telles que les choses doivent être. Mais que je dis, c'est déplorable si vous essayez de circuler un peu partout dans des cités où il y a des carrières ici à Colosie. Vous allez trouver des communautés qui n'ont même pas de l'eau potable à boire. Et pourtant, les sociétés qui exploitent dans les environs polluent leur environnement et fait du n'importe quoi. C'est pourquoi nous demandons, est-ce que vraiment l'État existe ou pas? Cette histoire de dotation, M. Jody, avec les sous-traitants ici à Colosie, pour avoir un contrat, il faut débourser beaucoup d'argent. Et vous allez voir que l'employeur, ok, l'employeur qui débourse autant d'argent pour avoir un contrat, a du mal même à payer ses employés. Et il y a des paiements partout dans des sous-traitants. Et c'est vraiment déplorable. C'est ma contribution. Merci beaucoup.
Bien, merci pour votre intervention. Franck nous appelle de Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Le journaliste, bonjour. Et aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la dotation des 0,3%?
Oui, merci beaucoup. Je vais peut-être intervenir par rapport à certaines objections faites par l'invité. Parce que dans la plupart des cas, si nous devons constater le sens et la teneur de notre patriotisme comme Congolais, là, il y a aussi encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que dans la plupart des cas, nous plaignons que ce sont souvent les autres qui travaillent à notre place, la plupart des marchés attribués aux étrangers. Mais quelquefois, c'est aussi intéressant de nous remettre devant le miroir parce que il nous manque beaucoup d'aspects de discipline au niveau de gestion. Nous voulons gagner des marchés, mais nous ne mettons pas beaucoup de sérieux pour réaliser ces marchés que nous avons gagnés. Je partage totalement les objections de l'invité parce que de l'extérieur où je suis, je me rends même compte que la plupart même des petits supermarchés afro-asiatiques s'est tenu par les Asiatiques ou les Africains de l'Afrique de l'Ouest, quelquefois de l'Afrique de l'Est. Nous, Congolais, quand on commence, on peut bien commencer, mais souvent, on n'arrive pas, on n'évolue pas. Et si on doit se mettre à analyser notre comportement, donc c'est comme si nous avons un grand problème de gestion. On n'a pas beaucoup de problèmes, on a beaucoup de problèmes de discipline managériale, entrepreneuriale. On commence, mais il n'y a pas de suivi. Au lieu d'être là, au lieu du travail, travailler, gagner la clientèle, nous, on est un peu comme dans l'extravagance, on veut se faire voir, on veut se faire passer pour, mais il nous manque cet aspect de discipline du travail. Et ça nous caractérise. Si bien que sur place, nous nous plaignons, mais quand on attribue certains marchés à nos compatriotes, c'est la qualité qui pose problème alors que les autres, ils travaillent sur base de la qualité. Et personnellement, je crois que nous n'allons pas nous développer tant qu'il y aura encore ce genre d'état dans nos comportements. Nous nous plaignons, mais quand on nous attribue ce que nous devons faire pour notre propre pays, nous détournons, les managers détournent, l'entrepreneur prend cet argent, il voyage avec, il laisse des miettes pour ne faire qu'un travail qui ne tiendrait pas. Et quand on doit comparer, nous nous plaignons, mais nous nous plaignons contre qui et pourquoi, alors que parfois, c'est nous-mêmes, citoyens congolais, qui travaillons de manière délibérée pour détruire notre pays. Et c'est comme ça que même au niveau de Kinshasa, même de l'extérieur, ce sont les expatriés qui s'imposent du point de vue économique. Donc, nous sommes incapables de créer des sociétés d'aviation. Nous détournons des millions, on va placer ailleurs. Aucun Congolais ne peut ouvrir une banque. Les quelques banques qui fonctionnent, ce sont des banques des expatriés. Quand on nous impose des taux arbitraires, nous nous plaignons, mais l'argent que nos compatriotes possèdent en termes de milliards s'est envoyé ailleurs. Et là, on crée des emplois et on nous utilise au niveau de la sous-traitance. Je crois que là, il y a un problème de mentalité, un problème de civisme. Un problème de civisme, c'est même le plus grand problème que nous avons chez nous, le manque de discipline, le manque du vrai patriotisme. Et on pourrait se mettre à crier, tant que nous-mêmes, nous n'allons pas nous remettre en question, ça n'ira pas.
Merci beaucoup, Franck, de Vienne, en Autriche. Lambert Menda, voilà, nous parlons, vous êtes coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise du Lualaba. Nous parlons de la gestion de la dotation 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, une contribution obligatoire au développement des communautés locales. La Cour des comptes a publié son rapport. Il y a des graves irrégularités parce que la plupart de ces entreprises ont la tendance à minorer, à faire des fausses déclarations. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il peut pas tirer, on peut pas instaurer un système de contrôle après les déclarations? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vérifier si ces déclarations sont vraies ou pas, Lambert Menda?
Oui, surtout que ces entreprises sont cotées en bourse. Moi, je crois qu'il y a lieu que les détenteurs des obligations vérifient en amont les chiffres publiés. Parce que, comme je disais, les entreprises cotées en bourse, c'est la transparence. Alors, s'il y a de manigances ou soit des compromissions au niveau local, il y a lieu d'être vraiment des patriotes. Parce que, comme vous savez, si les entreprises minorent leur chiffre d'affaires, c'est au détriment de cette population qui est impactée. Quelqu'un l'a dit, nous sommes ici, oui, les gens sont incommodés par ces poussières. Ils sont envahis par ces bruits des machines qui passent d'une manière effrénée. L'environnement est détruit, le code minier est foulé aux pieds. Sont-ils punis? Non. C'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire chez nous ici, outre le problème de mentalité, la déficience patriotique que nous avons constatée de la part de nos compatriotes, il y a un problème de civisme et aussi ce laxisme-là. C'est-à-dire la justice ne fait pas son travail correctement. Les gens ont oublié. Bon, parce que vous savez, l'exemple doit venir toujours d'en haut. Hein, d'en haut. Des gens qui font n'importe quoi, si la justice met la main au nom d'une quelconque tribu, au nom d'un quelconque parti politique. En fait, les gens en bas ici voient comme si le pays n'est pas géré, on n'est pas sérieux à tous les niveaux. Ouais, c'est alors que nous nous disions que est-ce que son mouvement des patriotes? Parce qu'un patriote, au moins, il a le souci. Parce qu'il voit comment les étrangers, à peine qu'ils arrivent chez nous, ils commencent déjà à évoluer, à se développer, à acheter des parcelles entières. Ils commencent à faire des constructions en hauteur, mais tandis que les Congolais, des dizaines, des décennies, ils sont toujours là, au même niveau. Il n'y a pas cette classe moyenne, il y a seulement un grand fossé entre les riches et les pauvres. C'est au fait le grand problème qui...
Lambert Menda, est-ce que la société civile dénonce souvent ces irrégularités? Parce que il y a la Cour des comptes qui vient de le faire. Pendant tout ce temps, pourquoi la société civile, la nouvelle société civile congolaise du Lualaba n'a pas haussé les tons pour dénoncer les irrégularités?
Bon, au fait, comme je disais tantôt, nous l'avions fait d'une manière pas tellement élargie, mais d'une manière un peu spécifique, quand on a versé une descente dans une certaine dotation, que j'avais cité le nom précédemment, là où on a constaté des irrégularités et des travaux exécutés qui n'étaient pas exécutés dans la durabilité, alors on a dû alerter. Là, je crois que même l'autorité provinciale avait dit non, stop, stop à tel entrepreneur, et même il y avait même des conseils communaux qui avaient effectué aussi leur descente, parce que c'était des murs comme ça construits, quand quelqu'un pouvait pousser avec la force de sa main, et le mur pouvait tomber. Voyez un peu tout cela. Moi, je crois qu'on doit encore se lancer à fond, parce que c'est de notre responsabilité aussi de faire ce contrôle citoyen partout où il y a les différentes dotations et voir avec les communautés qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui reste à faire, ainsi de suite. Parce qu'il faut une certaine, plutôt un certain suivi. Mais outre cela, il y a aussi, par exemple, les députés provinciaux. Que font-ils, par exemple, pendant les vacances ici? C'est là où il y a un problème, parce que chez nous, les gens sont toujours là, ils veulent être appelés honorables. Mais pendant que leurs électeurs ne bénéficient pas de services des bases ou de besoins sociaux des bases, mais qu'est-ce qu'ils, où sont-ils? Ils sont à l'étranger. Et puis, ils vont rentrer seulement quand ça sera la rentrée parlementaire. C'est tout cela le problème. Mais en fait, la responsabilité est partagée. Mais à notre niveau, nous, on ne baisse pas les bras, parce que nous, c'est un engagement, c'est un sacerdoce. Donc, nous devons vraiment continuer à faire. Mais il y a aussi un problème de pouvoir être informé. Les gens ne communiquent pas suffisamment. C'est un problème. Donc, c'est-à-dire, il y a une certaine opacité dans la gestion. C'est-à-dire, sur la qui récupèrent des montants, qui font des... Bon, ils le gèrent d'une manière opaque, ils ne veulent pas vraiment...
Il n'y a, a pas de transparence.
L'article 24 de la Constitution, le droit, toute personne a droit à une information.
Merci Lambert, Menda. D'accord, merci beaucoup. On va conclure avec Ernest Mparewo, président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. Monsieur Ernest, quelle est la solution pour une bonne gestion, une transparence dans la gestion de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires?
Effectivement, il faut d'abord que le ministère s'est réveillé. Les deux ministères, le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales. Ça, c'est la première des choses. Ils ont des moyens. Sur la dot, 90% revient aux organismes spécialisés sur le terrain et 10% revient au ministère des Mines et au ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce qu'il faut avec cet argent? Ils sont en train d'acheter des JPT à Kinshasa au lieu d'aller voir si les projets sont exécutés. On ne se limite pas seulement à la dot. Même les cahiers de charges, ça pose problème aujourd'hui. C'est depuis 2019 que la plupart des sociétés devraient signer des cahiers de charges. Mais nous sommes en 2025. Vous verrez qu'il y a des sociétés minières qui n'ont en exploitation, qui n'ont même pas encore commencé à signer des cahiers de charges avec les communautés impactées. Le ministère est là, le ministère des Mines. C'est leur travail. Ils ont des directions pour aller vérifier et pour sanctionner, pour tirer même des permis d'exploitation. Mais ils sont là. Ils sont corrompus, la plupart d'entre eux, ils se la coulent douce, mais c'est les communautés qui sont en train d'impacter. Et demain, ce sont ces communautés qui vont commencer à injurer le régime en place. Et on va dire que non, non, lorsqu'on vous donne un poste, vous devez jouer votre rôle.
Bien.
La deuxième chose à faire, c'est de sanctionner. Donc, les sanctions doivent être faites par les instances judiciaires. Il y a déjà un rapport de l'audit, un rapport de la Cour des comptes, où on dit qu'il y a un manque à gagner de 50 millions de dollars. Plus de 50 millions de dollars de manque à gagner sur la dot seulement. Les 50 millions de dollars, c'est combien de routes, c'est combien d'écoles, c'est combien de centres de santé, c'est combien de projets agricoles, à Kolwezi et au Katanga.
Merci beaucoup, merci. Ernest Mparewo, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. On a pris beaucoup de temps, on s'arrête là pour aujourd'hui, on aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Lambert Menda, je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise du Lualaba. Merci à vous, excellente journée et à la prochaine.